Radio Kapi.
Le gouvernement congolais réitère son refus de dialoguer avec le M23 si ce mouvement rebelle ne se plie pas aux conditions posées. C'est le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, qui l'a fait savoir hier au cours de la conférence de presse à quelques jours de la reprise du processus de Nairobi. Et puis la RDC et les États-Unis d'Amérique ont signé un protocole d'accord de partenariat sur le renforcement du leadership de la République démocratique du Congo sur le climat et la conservation des écosystèmes. C'était hier à la COP27 qui se déroule en Égypte. Enfin, notre invité dans cette édition du journal, c'est Irène Vaweka, point focal du processus de Nairobi en Ituri. Elle nous parle de ce processus et notamment de la participation des représentants des différentes communautés et des leaders des groupes armés dans les prochaines discussions. Voilà tout pour le sommet. Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs et merci de nous recevoir chez vous pour cette édition du journal. À quelques jours de la reprise du processus de Nairobi dans le cadre des discussions entre les gouvernements congolais et les groupes armés, Christophe Lutundula, vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, réitère le refus du gouvernement de dialoguer avec le M23 si ce mouvement rebelle ne se plie pas aux conditions posées par le gouvernement. Christophe Lutundula l'a dit ce samedi 11 novembre au cours d'un point de presse co-animé avec son homologue Patrick Muyaya de la communication et médias. On écoute Christophe Lutundula dans cet extrait choisi par Pierrot et la Mégie.
Nous maintiendrons cette position. Je suis fondé à vous le dire au nom du président de la République, au nom du gouvernement. Nous ne changerons pas. Donc, soyez rassurés, et le président l'a dit aussi, et à la suite du président, nous avons eu à répéter le président. Pour nous, les conditions sont les suivantes. 1. Il faut que le M23 cesse ses activités criminelles. 2. Il faut qu'il se retire des localités occupées. 3. Il faut que nos compatriotes qui ont été chassés par la violence reviennent à leur domicile. 4. Il faut que cesse tout soutien à tout groupe armé et dans les cas d'espèce au M23. Nous ne changerons pas cette conditionnalité. Nous devons avoir le dialogue, mais nous ne négocierons jamais sur l'intégrité territoriale, la souveraineté, l'indépendance de notre pays et le bien-être de nos populations. Si cela est fait, nous sommes ouverts à des discussions.
Toujours au cours de ce même point de presse, Christophe Lutundula a annoncé l'arrivée à Kinshasa ce dimanche de l'ancien président kenyan Uhuru Kenyatta, médiateur désigné par la communauté des États de l'Afrique de l'Est pour conduire ce processus de Nairobi. Entre-temps, territoire de Nyiragongo, les déplacés de guerre lancent un cri d'alarme aux autorités gouvernementales et aux ONG pour sortir des mauvaises conditions de vie qu'ils traversent dans ce site. D'après le responsable du site de l'Epemboga à Kibati, en une journée, jeudi dernier, 3 personnes sont décédées de maladies liées aux mauvaises conditions. Elles ont été enterrées sur le champ. Théo Moussekoura indique qu'en plus de leur exposition aux intempéries, les déplacés sont aussi victimes des accidents de circulation pour la simple raison qu'ils campent tout au bord de la route. Cette imprudence a déjà occasionné plusieurs pertes en vies humaines. C'est pour cette raison que ces responsables réitèrent un SOS aux autorités et aux agences humanitaires en vue d'améliorer leurs conditions de vie et de délocaliser ces sites installés près de la route. Théo Moussekoura explique.
Il y a trop d'accidents ici où nous vivons au bord de la route. Les gens se font tamponner à tout moment. Nous avons déjà enterré certains et d'autres sont encore à l'hôpital général sans assistance. Et on refuse même de les soigner parce qu'il n'y a pas une prise en charge prévue pour des cas d'accident. C'est pourquoi je demande aux autorités de nous aider à nous délocaliser vers un site loin de la route et nous donner des abris. Nous passons nuit à la Belle Étoile. Nous recevons peu d'assistance, mais le fait de dormir dehors ou dans des salles de classe nous rend malades tous les jours. Hier, j'ai enterré 3 personnes, dont 2 enfants et un adulte.
Rappelons que la question sur la construction des abris et l'amélioration des conditions de ces déplacés était au centre des discussions récemment entre les ministres des Affaires sociales et les agences humanitaires à Kinshasa. Et puis, dans le territoire de Masisi au Nord Kivu, des affrontements opposent depuis 2 jours maintenant différents groupes armés dans le groupement Nyamakobo. C'est au sud du territoire. Selon un député provincial élu de la zone, il s'agit notamment de la coalition de l'APCLS de Javier et les Nyatura contre les combattants de Nduma pour la défense du Congo un d'ici rénové. Il déplore le fait que ces accrochages ont à nouveau accentué le déplacement des populations des villages Ngoulou, Mukoa, Katanga et Bouchari. Entre autres, dans cette entité coutumière, Alexis Baunga plaide pour le redéploiement des FARDC dans la zone. Il est dit ici au micro de Bernardin Nyang.
On signale encore des affrontements hier et ce matin. D'une part, dans le village Ngoulou, qui oppose les Nyatura contre les NDC, et d'autre part, à Katanga, qui oppose les NDC contre les APCLS, notamment les habitants du village de Mukohwa, Ngoulou, Bouchaire, Rutoboko, Humura et Kiché. Tous se sont déplacés, notamment dans la Brousse, et d'autres vers Mahanga, vers Luhando, éventuellement vers Luke. Tout ceci se passe alors que depuis des semaines déjà, les FARDC étaient déjà déployés dans la zone pour mettre en déroute toutes ces groupes armés qui quittent dans la zone après qu'il y ait eu assassinat ou tuerie de la fois passée. Curieusement, la zone aujourd'hui demeure inoccupée par les FARDC, ce qui fait que les groupes armés continuent à se pavaner dans cette zone-là. Voilà pourquoi nous demandons aux autorités militaires de tout faire pour redéployer les FARDC dans la zone. Nous demandons aussi à tous ces gens-là, notamment ces groupes armés, de mettre fin à leurs hostilités. S'ils sont patriotes, aujourd'hui, le regard de tout Congolais est tourné vers Rutshuru, qu'ils aillent aussi à Rutshuru où on a besoin de leurs biceps.
À l'ouest du pays, à Bandundu, dans la province du Kwilu, une trentaine présumés auteurs des attaques de certains villages du territoire de Bagata, arrêtés, ont été présentés jeudi par l'armée au gouverneur des provinces, représenté par le ministre provincial de l'Intérieur, le professeur Jean-Claude Bouanganga. La cérémonie s'est déroulée au niveau de l'état-major des forces armées, en présence de plusieurs autorités sécuritaires et politico-administratives, dont le maire de la ville, mais aussi de la population. À l'occasion, le commandant de la 11e région militaire, 113e bataillon infanterie de Bandundu, le colonel Alembayo, a indiqué que les opérations militaires se poursuivent pour traquer tous ces inciviques dans ce coin. Irène Bouma.
Ces assaillants, au nombre de 37, dont des femmes portant chacune un enfant, présumés auteurs des attaques de certains villages dans les territoires de Bagata, ont été présentés à l'autorité provinciale sous une ambiance de chansons et slogans scandés à l'honneur des FARDC par une foule nombreuse venue assister. Le colonel Alain Bayou.
Il y a des groupes. Le premier groupe a été arrêté à la carrière Kimpana. Et le deuxième groupe, c'est le groupe qui a endeuillé le village Missia. Nous étions à la recherche de ces gens-là et nous les avons trouvé au niveau des Kingulu Kapai avec leur butin qu'ils avaient pillé à Missia. Sur le terrain, les opérations continuent.
Les 10 malfrats doivent subir la rigueur de la loi. C'est le souhait le plus ardent de certains habitants de Bandundu. Ce sont des malfaiteurs. Ils n'ont pas pitié des autres. Qu'ils soient vraiment sanctionnés, que la justice soit faite, que l'État fasse son travail comme il se doit. Notez que ces présumés assaillants ont été présentés avec leurs objets opératoires, dont 16 armes à feu du type calibre 12, 22 machettes tramontinas, 6 flèches et autres, mais également avec plusieurs biens de valeur pillés, entre autres 20 panneaux solaires, des télévisions, 5 gros sacs de maïs et quelques articles de beauté, dont les poudres. Irène Mboma, Bandundouville, Radio Okapi.
Ce journal se poursuit, mesdames et messieurs. À Sharm el-Sheikh en Égypte, où il participe à la COP27, le ministre congolais de l'Industrie, Julien Paluku Kaungia, présente la République démocratique du Congo comme une meilleure destination au monde pour l'industrie des batteries électriques grâce à ses minéraux stratégiques, dont le cobalt, le lithium et manganèse. Le ministre de l'Industrie a pris part ce vendredi à plusieurs panels, dont celui sur la décarbonisation de l'industrie africaine. Piro et la Mégie.
Juste après, Julien Paluku Kaungia a assisté au stand de la RTC à la cérémonie de signature de l'accord de partenariat entre la RDC et les États-Unis d'Amérique sur le renforcement du leadership de la République démocratique du Congo sur le climat et la conservation des écosystèmes. Les États-Unis ont été représentés par leur secrétaire d'État à la croissance économique, à l'énergie et l'environnement, José Fernandez et Eve Bazaïba, la vice-premier ministre et ministre de l'environnement et du développement durable pour la RDC. Également, ces deux membres du gouvernement ont participé au panel sur le fond bleu pour le bassin du Congo.
Et puis, dans la province du Maniema, le jeudi 10 novembre, la GIZ a clôturé les travaux de la 4e réunion du comité de pilotage du projet Pirée de Maniema. Ces travaux de 2 jours avaient pour objectif, entre autres, la validation du mémorandum de collaboration entre les services techniques étatiques et la GIZ, la présentation des avancées enregistrées en 2022, le plan de travail et budgétaire 2023, ainsi que la présentation du rapport synthèse des groupes de travail qui sont les propositions des ONG pour la prochaine phase du programme. Reportage, Florence Kizalunga.
À l'issue de ces assises, le conseiller principal de la GIZ, M. Martin, content des résultats à temps, pense que ce travail fera du Maniema une province pilote pour le développement environnemental.
Je pense que les travaux ont été d'une très grande richesse. Ils ont été caractérisés par un esprit de franchise, mais aussi dans un élan d'être constructif et de toujours être prêt à chercher des solutions aux différents problèmes.
La GIZ, nous sommes à vos côtés pour la mise en œuvre de ce pilote. Dans l'espoir que nous atteindrons des bons résultats pour cette province et ainsi nous ferons du Maniema un réel exemple du savoir, de l'esprit de travail.
C'est avec satisfaction que le représentant du gouverneur intérimaire a noté la validation de toutes les recommandations formulées au profit de la province. Dr Kibungi Mutanga.
Je note avec satisfaction la validation des recommandations de la dernière réunion de COPIL, du mémorandum de collaboration entre les services étatiques et la GIZ, du rapport d'avancement des mises en œuvre du PTBA 2022, du plan de travail et budget annuel 2023.
C'est la salle de réunion de l'espace Sixé qui a servi de cadre à ces travaux. Kindu. Florence Kizalunga, Radio Okapi.
Autre nouvelle, l'Enfort est une jeune entreprise qui évolue dans le cadre du numérique. Elle fonctionne dans la ville de Beni depuis octobre dernier. C'est une initiative de certains jeunes de la ville de Beni. L'objectif de cette nouvelle entreprise est de contribuer à l'innovation ainsi qu'au développement de la ville de Beni. Cette nouvelle entreprise a été révélée lors d'une conférence organisée par ses membres. Gad Malik, directeur général de l'Enfort, la présente au micro de Guylaine Kassassia.
Les objectifs de l'Enfort, c'est plus innover et développer notre environnement dans les domaines plus numériques. Vu que la ville de Beni a toujours été vue comme une ville à massacre, nous avons voulu montrer qu'à Beni, il y a aussi des jeunes talents qui peuvent développer notre communauté. Nous faisons plusieurs activités, dont la création des sites web, la création des programmes et la création des applications mobiles. Nous créons aussi des projets qui peuvent aider à notre communauté. L'Enfort a mis en place le projet Julisha Business il y a un mois. C'est un site ou une plateforme que nous avons conçue de commerce électronique. Ça signifie qu'on peut commander ou acheter à distance et nous faire livrer à domicile.
Comment y accéder?
Accéder à Julisha Business, c'est simple. Vous n'avez qu'à écrire www.julishabusiness.com. Pour l'instant, nous avons fait des tests avec le supermarché Alpha et on espère que les autres entreprises aussi vont adhérer à la plateforme, les autres supermarchés ou encore d'autres boutiques qui en voudront.
On revient ici à Kinshasa. La problématique des inondations à Kinshasa, au cœur d'une réunion ce jeudi entre le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, le gouverneur de la ville de Kinshasa et tous les bourgmestres des communes. Objectif, identifier les causes des inondations et faire des propositions pour y mettre fin. Une commission a été mise en place pour cela. Elle devra présenter son rapport ce lundi déjà. Autre précision avec Babel Pongo Massimango.
Comme le conseil des ministres, le vice-premier ministre Daniel Asselo a bien posé la problématique des inondations dans la ville de Kinshasa.
Les inondations des artères et de certains quartiers ont mis en évidence un problème d'absence d'un plan d'entretien et d'assainissement régulier de voies d'évacuation des eaux de pluie et aussi de la nécessité de sévir face aux constructions anarchiques. Il a aussi requis du gouverneur le courage dans l'application des plans de la ville, même là où toute résistance se présenterait, et des bourgmestres leur implication dans les travaux d'assainissement de leurs communes respectives.
Une commission présidée par le gouverneur a été mise en place pour trouver des solutions à court, moyen et long terme. Son rapport est attendu lundi au bureau du vice-premier ministre. Le gouverneur a lui chargé les bourgmestres de répertorier les endroits considérés être à l'origine des dégâts dans leurs communes respectives. Les participants ont ensuite visité quelques sites à problème.
Actualité internationale.
Le Tchad échappe aux sanctions du Conseil de paix et sécurité de l'Union africaine lors d'une session extraordinaire hier vendredi à Addis Abeba. Les 15 membres devraient trancher sur un rapport accablant contre le pouvoir de transition où le président de la commission de l'organisation Moussa Faki demandait de sanctionner les autorités tchadiennes pour sauvegarder un minimum de crédibilité à son organisation et pour être cohérent avec les autres pays africains dans le même cas. Et puis l'armée ukrainienne a annoncé ce vendredi 11 novembre être entrée dans Kherson, dans le sud du pays, après le retrait des forces russes. Nouveau revers pour Moscou après bientôt 9 mois de campagne militaire en Ukraine.
L'invité.
Notre invité dans cette édition du journal s'appelle Irène Vawika, point focal du processus de Nairobi en Ituri. Il s'agit d'un cadre d'échange mis en place par les dirigeants des États membres de la communauté des États de l'Afrique de l'Est pour résoudre la crise sécuritaire et humanitaire qui sévit dans la région des Grands Lacs. Elle nous parle de ce processus et notamment de la participation des représentants de différentes communautés et des leaders des groupes armés dans les prochaines discussions, celle de la troisième phase, à savoir Nairobi 3. Elle s'entretient ici avec Jean-Claude Lokidile. Suivez.
Madame Irène Vawika, bonjour.
Bonjour.
Où est-ce que nous en sommes avec le processus de Nairobi en ce qui concerne l'Ituri?
Au niveau de l'Ituri, dans le cas du processus de Nairobi, nous sommes dans les préparatifs de Nairobi 3 qui aura lieu incessamment, si tout va bien, à la fin du mois de novembre, où les représentants des communautés ainsi que les groupes armés iront à Nairobi 3 avec leur feuille de route, ainsi qu'avec leurs revendications et leurs besoins communautaires, afin de présenter aux pays membres de EAC ainsi qu'au président de la République, qui fait partie prenante des membres de la communauté de l'Afrique de l'Est.
Nairobi 3, mais on sait qu'en Nairobi 1 et 2, toutes les communautés, en tout cas où les représentants des groupes armés n'étaient pas là-bas, est-ce que cette fois-ci on a tout harmonisé? Bref, est-ce que on a fini la mise en place, comme on peut le dire, terminée pour que tout le monde puisse y aller?
La mise en place est en train de s'installer, et à Nairobi 1, il y avait quelques groupes armés, parce que aujourd'hui nous sentons qu'il y a une évolution avec l'engagement des autres groupes armés qui sont d'accord à participer à Nairobi ainsi qu'à intégrer le programme de PDDR.
Parce qu'on sait qu'il y a FRPI, il y a FPIC, il y a encore quoi, il y a CODECO. Est-ce que tous ces groupes armés sont cette fois-ci déjà d'accord, ont donné leur accord pour aller à Nairobi 3?
Avec ceux qu'on a échangé dans des activités intracommunautaires organisées conjointement entre l'affaire civile MONUSCO et le gouvernement provincial, nous avons échangé avec CODECO, avec FPIC ainsi que FRPI, et nous avons convaincu que la chaise vide ne paye pas et qu'il était important que les groupes armés répondent à l'appel de chef de l'État et qu'ils participent à Nairobi 2, et s'ils ont des revendications, des préoccupations, qu'ils les amènent. Et jusqu'à la preuve de contraire, nous n'avons pas encore reçu des groupes armés qui ont dit non à Nairobi 3, et au moment venu, ils seront contactés directement par Kinshasa afin qu'on puisse organiser avec les communautés qui vont représenter les communautés avec leurs feuilles de route sur comment nous allons acheminer vers Nairobi 3 et quelles sont les dispositions qui seront mises en place, pas seulement avec la présidence, mais notamment aussi avec le partenaire d'appui qui est la MONUSCO.
Et l'opinion se pose la question, quelle est la position officielle de Zaïre? Parce que vous ne voulez pas citer parmi les groupes armés qui ont dit oui. Vont-ils aller ou pas ou...
Zaïre, jusque-là, je me réserve de donner la position de Zaïre, parce qu'ils ne sont pas encore, en tant que moi, point focal Ituri, je ne suis pas encore entré en contact avec Zaïre. Comme je l'ai dit, les groupes armés seront contactés directement par Kinshasa, par la présidence. Nous avons un élément de phare d'essai, un général, qui va contacter les groupes armés, et ça sera organisé à leur niveau, au niveau national. Ils vont entrer en contact directement avec eux, et après, on va nous faire rapport et on va coordonner ensemble comment nous allons acheminer vers Nairobi 3. Et aujourd'hui, le chef de l'État a pensé aux communautés qui vont participer à Nairobi 3, parce que les communautés doivent faciliter. Aujourd'hui, beaucoup des groupes armés ont un aspect communautaire, et aujourd'hui, les communautés vont jouer un grand rôle afin de faciliter aux groupes armés, de sensibiliser les groupes armés à intégrer tous les programmes du chef de l'État pour que la paix revienne en Ituri.
Est-ce que la population de l'Ituri peut espérer à Nairobi 3 pour que cette accalmie, bien qu'elle soit précaire en Ituri, puisse perdurer jusqu'à ce que tous ces milliers de personnes déplacées puissent regagner le village?
Oui, maintenant, Jean-Claude, à cette question, je veux vraiment parler en tant qu'Iturienne. Et en tant qu'Iturienne, nous ne devons pas tout attendre du président de la République de l'extérieur. Je pense que la paix doit revenir parce que nous, les Ituriens, nous le voulons. Et les processus du chef de l'État, nous devons l'accompagner. C'est nous, la population, qui devons accepter, nous approprier et accompagner le chef de l'État, ainsi que toutes les initiatives qui sont prises pour que la paix redevienne. reviennent en Ituri. Et je pense que nous ne devons pas rester les bras croisés parce qu'on est population et nous dire est-ce que le processus va marcher, est-ce que PDDR va marcher. Nous devons tous ensemble, la communauté, les groupes armés, être conscients qu'aujourd'hui la paix est notre responsabilité. Nous devons prendre cette responsabilité parce que on veut que, qu'il y ait changement, qu'il y ait développement dans notre province.
Irène Vraika, je vous dis merci.
Merci Jean-Claude Loki.
Voilà mesdames et messieurs, complètement terminée cette édition du journal, mise en onde par Jean-Claude Ntiala. Merci à toute l'équipe rédactionnelle sous la coordination de Piro et la Mégie et la supervision de Noéla Luzitu Kabambi. Merci aussi à vous pour votre particulière attention.